Chapitre 1er. Le chapitre 1 des Actes, vu sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 1 des Actes témoigne qu'il ne s'agit pas simplement de la parole de Dieu annonçant le début de l'Église de Dieu, mais d'un tournant décisif montrant comment l'évangile de l'eau et de l'esprit, que Jésus-Christ a déjà accompli, est témoigné au sein de l'Église primitive. Ce chapitre ne parle pas d'une nouvelle vérité de salut, mais traite du processus de préparation spirituelle pour prêcher l'évangile du salut déjà accompli au monde entier. Actes, chapitre 1, versets 1 à 3, 40 jours après la résurrection, confirmation du ministère de l'évangile accompli une fois pour toutes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Luc mentionne le premier livre et rapporte les événements depuis le moment où Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il est écrit que Jésus ressuscité s'est montré aux disciples pendant 40 jours et qu'il leur a parlé des choses qui concerne le royaume de Dieu. Cette période n'était pas un temps pour ajouter de nouvelles doctrines, mais un temps pour faire reconnaître clairement aux disciples le salut déjà accompli, c'est-à-dire l'événement par lequel l'évangile de Dieu a été confirmé par la résurrection, après avoir été jugé pour la punition du péché sur la croix à travers la structure du transfert des péchés du monde par le baptême que Jésus a reçu de Jean. Le livre des Actes n'est pas une histoire de la création du salut, mais il rapporte l'état des disciples de Jésus attendant de témoigner du salut déjà accompli. Actes, chapitre 1, versets 4 à 5, relation avec le baptême d'eau donné par Jean. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus se réunit avec les apôtres et leur ordonne de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce qu'ils ont entendu de lui. Il a dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Cela rapporte que Jésus, après que les péchés du monde, lui, ont été transférés par le baptême qu'il a reçu de Jean, a subi la punition pour le péché sur la croix, est ressuscité des morts et a manifesté le Saint-Esprit comme un don à ceux qui croient. Le baptême d'eau de Jean fait référence à l'événement où les péchés du monde ont été réellement transférés sur le corps de Jésus à travers la structure où Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste et prend sur lui les péchés du monde. Et le baptême du Saint-Esprit est le récit de l'œuvre par laquelle le Saint-Esprit vient sur ceux qui croient en cet évangile de l'eau et de l'Esprit et rend témoignage à ce fait. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui vient pour traiter le problème du péché, mais cela fait référence à l'œuvre du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit vient sur les personnes de foi pour qui la punition du péché est déjà terminée, les amenant à témoigner de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Actes, chapitre 1, versets 6 à 8, le but du Saint-Esprit, témoin de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, au-delà de l'expérience personnelle. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Lorsque les disciples se sont rassemblés, ils ont demandé, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et ils plaçaient encore leur intérêt dans une restauration terrestre. Cependant, Jésus dit que les temps et les moments sont ce que le Père a fixé de sa propre autorité. Il ne leur appartient donc pas de les connaître, et il leur révèle l'essence de la mission. Le Seigneur proclame « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le but de la venue du Saint-Esprit n'était pas l'extase personnelle ou le renforcement du zèle religieux, mais avait pour but de les faire témoigner de l'évangile de l'eau et de l'Esprit déjà accompli jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, versets 9 à 11, annonce de l'achèvement du ministère d'expiation et de l'ouverture de l'ère du Saint-Esprit. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il est écrit, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » La résurrection et l'ascension de Jésus ne sont pas une simple disparition, mais une parole annonçant que tout le ministère d'expiation sur terre a été accompli. Il n'est plus nécessaire de porter le péché et de subir la punition pour le péché de manière répétitive. Et le salut a déjà été achevé et accompli dans le ministère de Jésus et de Jean-Baptiste. Deux hommes vêtus de blanc se tinrent là et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » La parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit éveille à l'idée qu'il ne s'agit pas d'une foi consistant à regarder vaguement seulement vers le ciel, mais qu'il faut témoigner avec assurance de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a déjà été accomplie sur cette terre. Actes chapitre 1, versets 12 à 14, l'essence de l'attente. Non pas la repentance pour l'effacement des péchés, mais l'attente pour le ministère. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les disciples retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, montèrent dans la chambre haute où ils séjournaient et d'un commun accord se consacrèrent entièrement à la prière. Cette attente n'était pas un temps pour se repentir avec des larmes, afin d'obtenir l'effacement des péchés ou pour prendre la résolution d'atteindre la sanctification. C'est parce que Jésus était déjà devenu leur Seigneur en recevant le baptême de Jean pour que les péchés du monde lui soient transférés, en recevant le jugement du péché sur la croix et en ressuscitant des morts. Maintenant, ceux qui étaient devenus les disciples de Jésus se préparaient pour la prédication à grande échelle de l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la présence promise du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, versets 15 à 26, les qualifications d'un apôtre, les exigences pour un témoin qui a vu le baptême et la résurrection de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Lorsqu'ils ont ajouté un apôtre pour combler la place vide de Judas Iscariot, les critères étaient très stricts et clairs. Pierre dit « Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » La condition d'un apôtre n'était pas le caractère ou le zèle, mais il devait s'agir de quelqu'un qui avait pu voir directement et témoigner ensemble du ministère de Jésus portant les péchés de l'humanité par le baptême et de l'événement de la résurrection qui a confirmé cet effacement des péchés. En conclusion, le chapitre 1 des Actes présuppose que cela a déjà été accompli à travers le baptême que Jésus a reçu de Jean et la croix. Il déclare que le Saint-Esprit est venu pour faire en sorte que cette parole accomplie de l'évangile de l'eau et de l'Esprit soit témoignée au monde entier, et que l'Église de Dieu n'est pas une institution qui crée le salut par elle-même, mais qu'elle était une communauté de témoins qui prêche la parole de l'évangile de l'eau et de l'Esprit du salut qui a déjà été accompli. Le chapitre 1 des Actes nous proclame clairement, à travers la structure historique de l'Évangile, que sans le fondement de la parole appelée l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la véritable œuvre du Saint-Esprit ne peut pas non plus exister. Un sermon de Paul Sijong. Si nous considérons les paroles d'Actes chapitre 1, versets 1 à 26, du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit prêché par le pasteur Paul Sijong, ce chapitre n'est pas simplement un récit de la naissance de l'Église, mais un processus solennel par lequel Dieu établit des témoins pour attester de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du salut déjà accompli. Luc révèle dans les versets 1 à 3 l'ouverture des Actes qu'il avait déjà consigné le fondement de l'Évangile dans l'Évangile de Luc à travers l'expression « tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner ». Les choses concernant le royaume de Dieu qu'il a enseigné en apparaissant aux disciples pendant 40 jours après sa résurrection n'était pas un processus de création d'une nouvelle méthode de salut. C'était un processus pour révéler aux disciples que Jésus avait déjà pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, avait porté la peine du péché, l'avait subi sur la croix et avait confirmé cette vérité du salut par la résurrection d'entre les morts, faisant ainsi d'eux des évangélistes. Dans les versets 4 et 5, il est écrit concernant les disciples. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce commandement d'attendre le Saint-Esprit implique la nécessité du ministère des disciples pour témoigner du salut déjà accompli. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui accomplit l'expiation par lui-même, mais celui qui confirme dans nos cœurs la parole de la vérité du salut que Jésus a pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême de Jean, les a portés sur son corps et a payé le salaire du péché sur la croix. Par conséquent, la venue du Saint-Esprit est l'événement par lequel ils sont revêtus de puissance pour témoigner avec assurance de la parole déjà accomplie de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Dans les versets 6 à 8, lorsque les disciples ont demandé « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?», Jésus a détourné leur attention de la restauration politique ou du moment et a déclaré « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, un témoin n'est pas simplement quelqu'un qui accomplit des miracles, mais quelqu'un qui parle du salut où Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a subi la peine du péché sur la croix. La puissance du Saint-Esprit accompagne toujours la foi qui croit au baptême que Jésus a reçu de Jean et à la croix, et par cela amène à témoigner de l'évangile de l'effacement des péchés au monde entier. Dans les versets 9 à 11, lorsque Jésus a été enlevé au ciel, les anges ont dit « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» ramenant les yeux des disciples vers la mission sur cette terre. Cela déclare que puisque Jésus a pris sur lui les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, a reçu le jugement du péché et a achevé le ministère du salut en ressuscitant des morts, la mission de témoigner de cette parole accomplie de l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier a maintenant été confiée à l'Église et aux saints. La tâche laissée aux saints qui attendent le Seigneur, qui reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel après être ressuscité des morts et être monté, est de prêcher la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit au monde entier. Enfin, dans le processus des versets 21 et 22 où ils ont établi un apôtre pour remplacer Judas Iscariot, la condition d'un apôtre est présentée très clairement. Il fallait que ce soit parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cela souligne que l'office d'un apôtre exigeait quelqu'un qui avait été témoin et qui croyait au fait que Jésus avait pris sur lui les péchés du monde de l'humanité en recevant le baptême de Jean, à sa mort sur la croix et à tout le processus de la résurrection d'entre les morts. L'Église des Actes n'était pas un rassemblement de ceux qui connaissaient seulement la souffrance de la croix, mais une communauté de personnes nées de nouveau qui avaient reçu l'effacement des péchés en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Aujourd'hui, le chapitre 1 des Actes nous dit que nous ne devons pas en rester à des confessions émotionnelles de la croix, mais que nous devons croire en l'Évangile parfait de l'eau et de l'Esprit, par lequel Jésus s'est chargé des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean au Jourdain et a reçu le jugement du péché sur la croix. Le Saint-Esprit témoignant de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs, afin que nous soyons convaincus qu'il n'y a plus de péché dans nos cœurs, c'est la vérité même de l'unique parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que les apôtres de l'Église primitive ont prêché. Ceux qui croient en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du salut ainsi accompli sont les véritables témoins de l'Évangile aujourd'hui. Et à travers l'Église qui prêche cet Évangile, l'œuvre du royaume de Dieu se poursuit même en ce moment et le royaume de Dieu s'étend. Questions et réponses sur le chapitre 1 des Actes. Première. En croyant en quel évangile reçoit-on le baptême du Saint-Esprit dans son cœur? Le baptême du Saint-Esprit est le don du Saint-Esprit reçu de Dieu lorsqu'on croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, par lequel Jésus a pris sur lui les péchés du monde à travers le baptême qu'il a reçu de Jean et a subi la peine du péché sur la croix. Par conséquent, la question « comment le reçoit-on » est ultimement liée à la question « en quelle parole de l'évangile croit-on » Premièrement, la parole de la Bible déclare que le sujet du baptême du Saint-Esprit donne le Saint-Esprit comme un don à ceux qui ont reçu l'effacement des péchés dans leur cœur en croyant au Seigneur qui a lavé les péchés du monde en recevant le baptême de Jean, a reçu le jugement du péché sur la croix et est ressuscité des morts, Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, Actes chapitre 1, verset 5. Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas séparément du ministère du baptême de Jésus-Christ et du ministère de la croix. Jésus a pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême de Jean et a accepté le jugement du péché sur la croix. Nous recevons le Saint-Esprit comme un don en étant sauvés de tous nos péchés par la foi en cette parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. À l'époque du Nouveau Testament, concernant le ministère de l'Évangile du salut par lequel le Seigneur nous sauve des péchés du monde, ceux qui ont reçu l'effacement des péchés dans leur cœur en croyant au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et au ministère de la croix reçoivent le Saint-Esprit comme un don. Par conséquent, pour ceux qui croient en cet Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu vient dans leur cœur comme un don. C'est cela le baptême du Saint-Esprit. En regardant le chapitre 2 des Actes, Pierre n'a pas dit de parler en langues ou d'avoir des expériences émotionnelles. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes, chapitre 2, verset 38. La repentance dont il est question ici n'est pas un simple remords émotionnel, mais une parole déclarant que l'on doit rejeter ses propres pensées. Revenir à la foi qui croit au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean et au ministère de la croix, voir ses péchés effacés et ainsi recevoir le Saint-Esprit comme un don. De plus, Éphésiens chapitre 1 verset 13 dit ceci « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis ». Le Saint-Esprit n'est pas donné après avoir vécu une expérience de foi particulière, mais c'est un don de Dieu donné comme le sceau du Saint-Esprit au moment même où l'on croit en l'Évangile du salut, c'est-à-dire au baptême que Jésus a reçu de Jean et au jugement de la croix. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une seconde bénédiction, mais un don de Dieu donné en même temps que la réception de l'effacement des péchés. Un sceau du Saint-Esprit reçu par la foi. Par conséquent, La manière de recevoir le baptême du Saint-Esprit peut être résumée par la foi suivante. Premièrement, c'est la foi qui admet que l'on est soi-même un pécheur et quelqu'un qui mérite de recevoir le jugement du péché et qui espère en la miséricorde du salut de Dieu. Deuxièmement, c'est la foi qui croit que Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême de Jean, a accepté la peine du péché sur la croix et a ainsi sauvé du péché tous les pécheurs. Puisque cette foi était la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur accepte leur foi et en retour répand le Saint-Esprit dans leur cœur comme un don. Troisièmement, nous devons savoir le fait que nous recevons le salut de nos péchés une fois pour toutes par la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a accompli. Et que ce n'est ni un salut obtenu en observant la loi de Dieu, ni un salut obtenu en croyant à des doctrines théologiques. Et la vie de foi ne consiste plus à affirmer ses propres pensées charnelles et sa propre justice, mais à s'appuyer uniquement sur la parole de l'évangile du salut prononcée par le Seigneur. Recevoir le Saint-Esprit comme un don par la foi crue dans le cœur et vivre selon la volonté du Seigneur devient le premier pas de la vie de foi. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une vie de foi centrée sur l'expérience, mais c'est en venir à marcher avec le Saint-Esprit dans une vie de foi bénie, obtenue par la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, croyez-vous en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans vos cœurs? Et vous devez vous accrocher au fondement de la parole certaine du salut qui vous a fait recevoir l'effacement des péchés dans vos cœurs. Le Saint-Esprit demeure dans le cœur qui a reçu l'effacement des péchés. Lorsqu'on est de nouveau en croyant de tout son cœur au ministère de l'eau et du sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit qui demeure dans leur cœur. En conclusion, le baptême du Saint-Esprit ne se reçoit pas en priant pendant longtemps, ni par la prière de jeûne, ni par l'imposition des mains reçues des hommes. C'est recevoir le Saint-Esprit comme un don uniquement par la foi qui croit au ministère juste de Jésus, par lequel Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde à travers le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a accepté le jugement du péché sur la croix. Par conséquent, la question est celle-ci. Suis-je à la recherche d'une expérience ou est-ce que je crois en l'évangile accompli de l'eau et de l'esprit? Ou bien sais-je que le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu déjà donné à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Deuxième, en croyant en quelle parole de l'évangile peut-on devenir un fidèle disciple de Jésus? Dans Actes chapitre 1, versets 20 et 1 à 22, il est dit « Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Dans cette parole, il est dit que pour combler la place de Judas, qui était un disciple de Jésus, il faut choisir quelqu'un parmi ceux qui ont la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout comme les disciples de Jésus. C'est-à-dire que seul celui qui possède la foi, croyant en la justice de Jésus-Christ, qui a pris sur lui les péchés du monde par le ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean, a accepté le jugement du péché sur la croix et ressuscité des morts, pouvait véritablement devenir un fidèle disciple de Jésus. Référence Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, Jean chapitre 1, verset 29, Jean chapitre 19, versets 17 à 30, Hébreux chapitre 10, versets 9 à 18.